17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Merci de nous retrouver dans cette émission spéciale Grand Témoin. Aujourd'hui, mon grand témoin, Mohamed Kaki. Bonjour Mohamed.
Bonjour Nasser.
Merci d'être là. Vous êtes président de l'association Les Oranges, dont vous allez nous dire de quoi il s'agit. Vous êtes auteur, comédien, artiste complet. Et je voudrais dire tout d'abord que j'ai beaucoup je suis très content de vous recevoir parce que j'ai beaucoup d'affection pour vous. On se connaît depuis très très longtemps et vous avez un engagement et un attachement à vos idées, à votre culture, à vos origines qui est vraiment remarquable. Et vous ne vous contentez pas simplement de les clamer, de les déclamer, mais vous créez, vous êtes un créateur et vous associez à la fois à vos actions, à vos idées et à vos créations. Et c'est vraiment avec beaucoup d'affection et beaucoup d'amitié que je vous reçois. C'est vraiment un vrai plaisir et un vrai honneur pour la radio que de vous avoir dans ces murs. Mohamed, vous êtes, on vous connaît sur, vous êtes illustré sur la mémoire. Sur le 17 octobre 61, sur l'indépendance de l'Algérie, sur toutes ces dates qui font que les Algériens de France, de façon générale, se raccrochent à leur histoire, parce que la citoyenneté, même si les binationaux sont français, à 2, 3, 4 générations, ils ont la guerre d'Algérie, ils ont l'Algérie dans leur gène, je dirais. C'est une forme de négritude, cette négritude que vous valorisez en essayant de dire voilà votre histoire, vous pouvez être français, vous pouvez vivre dans ce pays, mais en sachant d'où vous venez, et voilà. Et donc cette richesse, vous l'abordez de façon complète en créant, en écrivant des pièces de théâtre, en jouant, et on va y revenir dans un instant. Alors, l'association Les Oranges, vous l'avez créée il y a très longtemps, et à l'époque où pratiquement on ne parlait pas de toutes ces histoires d'histoire, de mémoire.
Oui, en fait, c'est tout un processus. Hein. Déjà en 1983, j'avais créé l'association Chabab à l'époque, qui veut dire jeunesse. Et en fait, l'association Les Oranges, c'est quoi d'abord Les Oranges ? Les Oranges, c'est la symbolique de l'amour et de la paix. C'est une pièce de théâtre qu'a écrite Aziz Chouaki, un auteur algérien, paix à son âme, qui n'est plus ici, et qui m'avait plu à l'époque. Et donc, l'histoire des Oranges, ça raconte l'histoire de l'Algérie, entre la France et l'Algérie, de 1830 jusque dans les années noires des années 90. Et j'ai beaucoup aimé cette pièce, donc je l'ai jouée au Théâtre des Amandiers en 2003, précisément. À l'époque, il y avait l'année de l'Algérie. Et donc, moi, j'ai proposé deux choses. J'avais proposé cette pièce-là, de la jouer et de la monter complètement. Et puis, j'ai proposé un colloque international où j'avais invité Mohamed Harbi, René Galissot, Aïssa Kadri, plein de grands noms comme ça, pour un colloque qui s'intitulait « Mémoire algérienne, hommage à Abdelmalek Sayad », un grand homme, un grand Algérien, un grand sociologue qui disait cette phrase merveilleuse « Exister, c'est exister politiquement ».
Oui. Abdelmalek Sayad, qui, avec Pierre Bourdieu, ont marqué, je dirais, la sociologie du XXe siècle. Sayad était un petit bonhomme, mais quelqu'un de très grand. Il a innové, il a, dans la sociologie, il a marqué la sociologie moderne de façon extrêmement importante.
Oui, absolument. Il avait, ça ressemblait à l'écriture de la sociologie de Chicago. C'est l'écriture de la vie. C'est-à-dire que lui, il était très proche des gens. Il était proche des gens de milieu populaire.
Alors il avait dit un truc intéressant, Mohamed, à propos des jeunes qui sont nés de parents algériens, etc. Il leur disait, à propos de toutes ces générations-là, vous êtes les enfants légitimes d'un couple illégitime.
Oui, absolument.
C'était extraordinaire.
Extraordinaire.
Bon, en rapport à la colonisation, bien sûr, la France, l'Algérie, etc. Vous êtes les enfants légitimes d'un couple illégitime. C'est formidable, il y a tout dedans.
Il y a tout. Il a parlé aussi de la double absence. Il parlait... C'est un homme... aujourd'hui, il est cité dans le monde entier. Il n'y a pas un sociologue dans le monde entier qui écrit un livre qui ne cite pas Abdelmalek Sayad sur les questions de migration, parce que il avait inventé quelque chose d'important. Il a dit, on ne peut comprendre l'immigration qu'à partir de la notion d'émigration. C'est-à-dire que, en fait, les Algériens qui viennent en France, ils ont une histoire à partir de leur village, à partir de, d'un schème politique et d'un schème collectif. C'est-à-dire que c'est le village entier qui s'engageait, et donc ces femmes et ces hommes qui viennent ici, ils ont une histoire. Et on ne peut pas nier cette histoire d'avant. Voilà.
Et vous savez que de plus en plus aujourd'hui, il y a des gens qui commencent à se faire remarquer en disant « il faudrait à l'université, etc., qu'il y ait créé une science » de l'immigration ou de l'immigration ou des migrations. Il faudrait qu'il y ait des UV à l'université, etc. Il faut plus en faire une espèce de chose comme ça qui politiquement est instrumentalisée. C'est une réalité sociologique, historique, etc. Il faut que ce soit étudié à l'université. Il faudrait que ce soit voilà, on parle de science de l'immigration ou des migrations, et je pense que là, Sayad aurait toute sa place, une université Abdelmalek Sayad, enfin des choses comme ça.
Vous avez absolument raison. Je suis vraiment heureux et ému de parler de lui parce que ça, comment dire, en mars 1998, lorsque il est mort. Moi, j'avais pour projet, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est injuste. Un grand sociologue comme ça, qui a fini directeur d'études, justement, au CNRS, et que ce grand bonhomme qui a travaillé avec Pierre Bourdieu, comme vous le disiez tout à l'heure, dans les années 60, en Algérie, en Kabylie, Bourdieu d'ailleurs, s'il a réussi à faire le travail colossal qu'il a fait, c'est grâce à Sayad.
Sayad y est pour quelque chose.
Mais bien évidemment.
En plus, Sayad, une gentillesse, une modestie incroyable. Quelqu'un de très modeste.
Et donc, ils ont fait un compagnonnage là-dessus. C'est d'ailleurs Sayad qui parlait kabyle, qui faisait les entretiens, etc. Et donc, finalement, Bourdieu, on peut dire, il a bénéficié beaucoup de l'apport de Sayad, avec lequel il a travaillé longuement. Et je trouvais injuste qu'on ne parle pas de lui. De Sayad, on l'avait complètement oublié. Et donc, c'est pour ça que j'ai mené un combat extrêmement important dans la ville historique de l'immigration algérienne, à Nanterre.
Là où il y avait les bidonvilles.
Voilà. Mais pas que. Les Algériens à Nanterre, justement, je crois qu'il faut qu'on sorte de cette histoire de la mémoire du pathos et du misérabilisme. Parce qu'on nous cite toujours les bidonvilles. Et c'est vrai que c'était un élément important, mais les bidonvilles, c'était dans les années 60. En fait, avant, les Algériens sont arrivés déjà dans les années 30, ils étaient là. Et en 1937, précisément, il y a eu la création du PPA, le Parti du Peuple Algérien de Messali Hadj, à Nanterre, et déclaré à la préfecture seine-et-oise à l'époque, dans un café algérien. Et c'est ça, mon travail, le travail que je fais avec la jeunesse, etc. Et vous me demandiez qu'est-ce que l'association Les Oranges. Et bien, l'association Les Oranges, c'est un travail de mémoire de combat, un travail de mémoire, de connaissances historiques, et qui croise la petite histoire et la grande histoire, l'histoire singulière des gens et l'histoire, la grande histoire. Parce que c'est grâce à l'histoire que, justement, on peut marcher debout. On peut dire, moi, vous savez, je pense aussi comme Noam Chomsky. Noam Chomsky, le grand linguiste, il disait... les mots font le monde. Et j'aime bien cette phrase, les mots font le monde, parce que il y a plein de gens qui disent issus de l'immigration. Moi, je n'aime pas ce mot-là. Je dis les Français héritiers de l'immigration algérienne. Parce que dans héritier...
Et vous dites même de l'immigration coloniale.
Oui, de l'immigration coloniale de manière plus générale. Et parce que... Pourquoi héritage ? Pourquoi héritier ? parce qu'il y a un héritage. Les Algériens, par exemple, pour le citer que, en France, il faut se rappeler qu'en 1926, donc à Paris, a été créée l'étoile nord-africaine de Messali Hadj. Et donc, il faut rappeler l'histoire, c'est très important.
Je crois qu'elle avait, été créée un petit peu avant, en 24. Il y avait ce qu'on appelait le CNAV Ouest, qui était à peu près, il y avait 17, 18 Algériens.
Oui, c'est dans ces années-là.
Qui avaient créé ça, et deux ans après, ils ont donné le nom de l'étoile nord-africaine.
Et donc, en tout cas, le nom de l'étoile nord-africaine, c'est 1926. Et donc, d'ailleurs, il y a eu un contentieux, puisque en 1936, c'est le Front populaire qui l'a dissoute. Personne ne le sait, ça. C'est le Front populaire, comme quoi nos pseudo-amis, quelquefois, parce que Messali Hadj...
Ceux qui avaient créé l'étoile nord-africaine, enfin, ce qui est devenu l'étoile nord-africaine au départ... était déjà à l'époque pour l'indépendance de l'Algérie.
Tout à fait.
Ça, on oublie souvent de le dire. Et c'est vrai qu'on a reproché à Messali Hadj le fait de ne pas avoir été pour l'indépendance tout de suite, d'avoir rejoint le FLN, enfin, qu'en 57, après la terrible guerre Emena-FLN. Mmh. Mais déjà, dans l'ADN de ce qui a créé l'étoile nord-africaine, il y avait déjà l'indépendance de l'Algérie.
Tout à fait. Et donc... justement, quand l'étoile nord-africaine a été dissoute en 37, eh bien, justement, Messali Hadj, à Nanterre, il a créé le PPA, le Parti du Peuple Algérien. Ensuite, il y a eu une longue histoire, le 17 octobre 61, que l'on connaît tous, avec ce massacre important, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Et ensuite, il y a eu une longue histoire aussi autour des choses qu'on ne sait pas, qu'on a oubliées. Par exemple, le MTA, le Mouvement des Travailleurs Arabes. En 1972, avec Sartre, avec Simone de Beauvoir, qui sont venus apporter leur soutien aux travailleurs immigrés, comme on disait à l'époque, qui faisaient les grèves justement dans les usines, etc., parce qu'on les humiliait, etc. Et puis il y a eu la marche pour l'égalité des droits,
dont on parle dans un instant.
Voilà.
Les grands témoins reviennent dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Mohamed Kaki, auteur, compositeur, président de l'Assemblée des Oranges, la mémoire, l'histoire, et on vient de parler de l'étoile nord-africaine, on vient de parler du mouvement des travailleurs arabes en 72, toutes ces dates du PPA, de Messali Hadj, donc tout ce qui se crée un peu dans l'immigration, dans les communautés, et qui est lié directement avec à la fois l'indépendance de l'Algérie, ce qui se passe en Algérie, mais aussi avec les grands mouvements mondiaux, universels, parce que tout ça s'articule dans une mondialisation. Hein, il y avait la grande rencontre de Cancun. Donc, d'ailleurs, il y a un livre qui a été écrit par un Américain qui raconte un petit peu tout ce qui s'est passé dans l'immigration, et lui il appelle ça, le titre du livre c'est l'arme secrète du FLN. C'est-à-dire qu'en fait c'est tout ce qui se passait dans l'immigration et ce que vous venez de et ces dates-là, vous en avez fait un élément artistique, et c'est pour ça que le 17 octobre pour vous vous l'avez complètement intégré dans cette histoire, et vous en avez fait une pièce de théâtre.
Oui, absolument. Et donc, ce rappel un peu historique pour dire en fait qu'on se nourrit de l'histoire. Et de moi, je suis quand je découvre tout ça, je suis fier que nos parents nos grands-parents, les arrière-grands-parents font partie d'une longue histoire de combat. Parce que souvent, quand on nous présente les choses, on nous les présente de manière misérabiliste et des gens qui rasent les murs et tout ça. Mais c'est pas vrai. C'est absolument faux. Nos parents étaient des combattants. Et il faut en être fier. Et c'est pour ça que j'ai écrit cette pièce de
théâtre. C'était des combattants et des bâtisseurs.
Tout à fait.
Et des bâtisseurs.
Absolument.
Les Trente Glorieuses sont là pour le prouver.
Tout à fait, et qui avaient une haute valeur de la dignité parce qu'ils ont enduré beaucoup de souffrances, etc. Mais il y avait cette capacité à encaisser. C'était des années très très dures. Et pour revenir au 17 octobre 61, moi j'ai écrit cette pièce qui s'intitule « 17 octobre 1961, je me souviens », pour faire un clin d'œil aussi à Georges Perec sur la question du souvenir. Parce que comme je travaille beaucoup sur la question de la mémoire, l'idée c'est comment viennent les choses comme ça. Hein. Et du coup, cette pièce de théâtre, de quoi parle-t-elle puisque je l'ai fini de l'écriture en juin 2021. J'ai mis 2 ans d'écriture. Et donc, nous l'avons joué dans le cadre du 60e anniversaire du 17 octobre 61 dans plusieurs théâtres. Et ça s'est fait vraiment comme ça, je dirais, par détermination et volontarisme.
Alors, c'est un dialogue entre un père et sa fille, et sa petite-fille.
Oui, c'est l'histoire d'un grand-père et de sa petite-fille. Mais ce dialogue, en fait, cette jeune fille, elle a une vingtaine d'années, elle est à l'université de la Sorbonne, elle a réussi en quelque sorte à sortir des quartiers populaires. Et elle est une brillante étudiante, mais c'est une combattante. C'est une combattante, elle va dans les gilets jaunes, elle va se battre dans les mouvements sociaux, etc. Et son grand-père est un peu inquiet, parce que lui, il ne veut qu'une seule chose, c'est qu'elle réussisse ses études et qu'elle s'occupe pas trop des combats. Et donc, un jour, elle va elle va être en difficulté, elle va être dans un commissariat de police à Paris, attrapée avec les gilets jaunes, et donc elle va appeler son grand-père, parce qu'elle appelle pas ses parents, parce qu'elle a peur des embrouilles, etc. Son grand-père va la chercher, il revient, et ensuite s'entame un dialogue. Il commence un conflit, hein, au théâtre, c'est toujours le conflit d'abord. Il lui dit, mais il faut pas faire ça, il faut pas aller dans les manifs, tout ça, c'est pas bien, occupe-toi uniquement de tes études. Et elle lui dit, ah bon? Et c'est toi qui vas me dire ça? Et toi, qu'est-ce que t'as fait dans ta jeunesse, etc. Et le 17 octobre, hein? Tu as participé. Et donc là, elle arrive à le convaincre. Tu m'as jamais parlé de tout ça. Tu parles pas. Et alors que moi, je sais des choses. J'ai regardé dans le grenier, etc. J'ai vu des archives.
Mohamed, c'est vrai que toutes ces générations, souvent, ne parlent pas.
Oui.
Moi, je sais que mon père ne parlait pas. Et je suis pas le seul. Beaucoup, beaucoup de gens de cette génération-là ne parlaient pas, comme s'il y avait un voile pudique, oui. Comme si, voilà, ils ont souffert, ils ont manifesté, ils ont fait la guerre, très très peu ont parlé. Cette jeune fille, donc elle dit, dis-moi, parle-moi.
Voilà, c'est ça. C'est la transmission intergénérationnelle. Et c'est ça qui est intéressant. Il faut sauter une génération pour qu'il y ait un dialogue entre un grand-père et sa petite-fille. Parce que c'est pas les mêmes rapports. C'est des rapports d'amour importants entre une petite-fille et son grand-père ou la grand-mère. Il y a des fois des choses qu'on va dire à son grand-père ou à sa grand-mère et on va pas les dire à son père. Et souvent, ça se passe comme ça dans les familles. Donc, il y a des cadavres cachés. Effectivement, il y a une histoire cachée. Et donc, elle va réussir à le convaincre. Et elle va lui dire, tu vas me parler tout de suite et maintenant, j'enregistre, vas-y. Et donc, elle arrive à le convaincre. Et donc, il va commencer un long monologue où il va convoquer, et c'est là que c'est intéressant, toute l'histoire du 17 octobre 1961. Mais pas seulement, c'est aussi l'histoire des amis de l'Algérie. Parce qu'il faut dire aussi, il faut le rappeler, que la mémoire de nos amis français, hein, Fernand Yveton, par exemple, et puis tous les autres, il y a une longue liste, le réseau Janson, etc. Il faut leur rendre hommage à ces amis.
Qui a été exécuté par l'armée française. Absolument. En Algérie, qui a été guillotiné parce que il a pris fait et cause pour l'indépendance de l'Algérie.
Fernand Yveton, il a été exécuté.
C'est le premier.
Oui, tout à fait, mais par un ministre de l'Intérieur, lequel?
François Mitterrand,
voilà. Et c'était pas le seul qu'il a exécuté. Il a exécuté beaucoup de militants algériens à cette époque-là, mais aussi beaucoup d'amis français. Il faut parler aussi de Maurice Laban, qui est mort à Biskra les armes à la main parce qu'il défendait les Algériens. Donc il y a
beaucoup... Ah, il se défendait lui-même, parce qu'il était algérien.
Oui, il se considérait comme algérien.
Ah oui, c'est son
pays. Il était européen et on pouvait il était dans une classe aisée, d'ailleurs il faisait travailler beaucoup de gens, etc., etc. On aurait pu penser qu'il ne pense qu'à lui, parce qu'il y a d'autres gens qu'on dit ma pomme d'abord. Lui non, il a dit je suis algérien et eux c'est des Algériens.
Donc là pour revenir à la pièce, donc là il y a un déroulé et il se passe pas mal de choses.
Voilà.
Alors, on va laisser les auditeurs venir voir la pièce.
Donc ça c'était l'année dernière. Alors cette année 2022 nous sommes c'est le 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie et donc j'ai écrit une nouvelle pièce qui s'appelle Hakima, 5 juillet 1962, je me souviens. Donc cette pièce est le prolongement de la première pièce sur le 17 octobre, c'est-à-dire que le 17 octobre est toujours là, c'est une trame importante, mais là on a prolongé le dialogue toujours avec le grand-père, toujours cette histoire d'intergénérationnel. Mais il y a une chose très importante, c'est que par exemple dans les familles, tout à l'heure vous disiez mon père m'a dit, mais on est tous pareils, il ne parlait pas forcément nos parents. Et donc elle interpelle son grand-père en lui disant, mais dis donc, tu m'as dit que ma grand-mère, j'ai toujours appris que ma grand-mère, elle avait 3 sœurs. Or, je viens de découvrir qu'elle en a 4. Et... pourquoi vous m'avez jamais parlé de ça? Et donc elle commence à le mettre dans une gêne pas possible. Hakima, c'est qui, etc. Et en fait, elle a fait des recherches. Il y a un membre de la famille qui a vendu la mèche, disant voilà, mais en fait, on n'en parle pas, etc. Pourquoi on n'en parle pas? Parce que c'est autour de quelque chose d'horrible. Et il y a quelque chose d'horrible dans l'histoire de la guerre d'Algérie que même les historiens n'en parlent pas. Les Algériens n'en parlent pas. Personne n'en parle parce que c'est d'une violence inouïe. Il s'agit des viols. Et donc, Hakima, qui a 15 ans à l'époque, en 1960, donc on est dans un douar, dans la région des Aurès, et l'armée française débarque, et cette armée française, avec un harki, qui leur dit, voilà, ils ont mis une garnison de militaires, donc voilà, et cette garnison de militaires, il leur fallait... ils voulaient des femmes, voilà. Et donc il fallait chercher dans les villages un certain nombre de jeunes filles, etc. Et donc cette jeune fille, elle va avoir le malheur de croiser ces gens-là, d'accord. Et il leur dit, le gars, le supplétif en question, leur dit, voilà, elle, vous pouvez la prendre. Elle n'a personne. Elle a pas de père, il y aura pas d'émeute. Et d'ailleurs, son père, on l'a tué l'année dernière, donc j'en sais quelque chose. Donc vous pouvez être sûr que celle-là... Donc le gradé lui dire, t'es sûr ? Si, je suis sûr. Bah, dit comme ça, alors on peut y aller. Donc ils ont embarqué cette jeune fille, elle est restée toute la nuit, ils l'ont massacrée, et le lendemain, ils l'ont jetée devant le village. Et c'est le début de l'histoire.
Voilà. Et bien
je
sûr,
ne révélerai pas.
Et bien sûr, on ira voir la pièce, voilà, de théâtre avec plaisir, et donc, et Beurre FM sera partenaire de cet événement.
Merci beaucoup.
Donc, les femmes qui sont, bien sûr, les premières victimes, souvent dans les guerres, et le viol est une arme, impitoyable. On le voit dans toutes les guerres. On l'a vu en Syrie, on l'a vu en Irak, on le voit aujourd'hui en Ukraine. Enfin, on le voit partout, quoi.
C'est terrible. Ce qu'il faut ajouter, quand même, une chose très importante. Là est mobilisée la question de l'honneur du village. Et on va voir comment l'honneur est un malheur. C'est-à-dire que, en fait, cette jeune fille a été souillée, a été massacrée, etc. Son oncle la soigne, etc. Et du coup, finalement, on décide de l'exécuter pour
bien
l'honneur.
Sûr, parce qu'il faut sauver l'honneur du village. On se retrouve dans un instant.
Les grands témoins reviennent dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Avec Mohamed Kaki, toujours. Alors, avant d'arriver aujourd'hui à comment on peut parler de l'histoire, notamment avec le rapport Stora, tout ce qu'on connaît autour de la mémoire, etc. Donc, il y a le 17 octobre, je me souviens. Il y a Akima, 1962, je me souviens. Et puis, vous avez été aussi auteur de l'autre 8 mai 45. Et donc, c'était cette troisième date. Et vous avez voulu aussi parler de cet autre 8 mai 45, puisque le 8 mai 45, c'est la libération de la France, c'est la fin de la guerre, c'est l'Europe en joie, mais c'est aussi le malheur, la guerre et la mort en Algérie. Alors, deux, trois mots là-dessus.
Merci beaucoup pour ce rappel. En effet, l'autre 8 mai, c'est aussi un grand chantier dans, sur lequel je suis, en termes d'écriture, de pensée, mais je suis aussi... En fait, ça a démarré en 2015. En 2015... avec un ami que vous connaissez, Olivier Lecourt Grandmaison, on décide, dans le cadre de l'association Les Oranges, de lancer une pétition pour la reconnaissance des crimes coloniaux de Sétif, Guelma et Kharata. Et donc, ensuite, cette pétition a un intérêt important chez les gens, et on crée ensuite un collectif plus large, qui comporte près de 400 associations, dont le MRAP, la LDH, etc. Et on demande au Conseil de Paris, parce que c'est suite à une rencontre, parce que les rencontres, c'est ce qu'il y a de plus formidable dans
Absolument.
La vie. J'ai rencontré Daniel Simonet, je ne sais pas si vous connaissez, qui est conseillère de Paris. Et on s'est rencontrés par hasard dans une manifestation pour les Grecs à l'époque. Et elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? On commence à parler. Et donc je lui parle du 8 mai 45. Et elle me dit, mais c'est passionnant, moi je ne connais pas, etc. Et puis de fil en aiguille, on fait une émission de radio ensemble et elle en devient passionnée. Et elle me dit, en quoi je peux être utile pour toi, Mohamed? Je lui dis, mais tu fais de la politique, toi? Mais oui, t'es élu, oui. Eh ben écoute, je te propose de proposer au Conseil de Paris un vœu qui soit étudié et voté. Et donc on y va comme ça avec Olivier Lecourt Grandmaison et on fait ce vœu. Et à notre grande surprise, mais alors très grande surprise, ce vœu, donc qui demande quoi ce vœu? Ce vœu demande au président de la République à l'époque, Hollande, de reconnaître le crime de Sétif, Guelma et Kharata, qui est un crime contre l'humanité. On l'écrit tel quel, crime contre l'humanité, crime d'État. Et donc, il est proposé au Conseil de Paris avec le groupe communiste, groupe socialiste, et il est voté, à notre grande surprise, à l'unanimité. C'est-à-dire que la droite et la gauche l'ont voté. Et depuis cette affaire-là, depuis ce vote, fort de ce vote-là, nous avons entamé un travail sur l'ensemble de la France, et il y a aujourd'hui une cinquantaine de villes qui, chaque année... Quand il y a le 8 mai 1945, eh bien, nous commémorons à côté l'autre 8 mai. Et donc, d'ailleurs, je pars à Lyon pour l'autre 8 mai.
Donc, le 8 mai arrive bientôt, la semaine prochaine.
Bien sûr. Bonjour. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on est déterminé, c'est de la détermination. Et c'est moi l'héritage que je veux donner à la jeunesse, c'est de dire, voilà, faut croire en ses rêves, faut croire au combat, faut croire, c'est de la détermination qui mène.
Et en plus, vous dites, moi, je veux prendre l'espace public comme lieu de l'histoire et de la mémoire. Absolument. Ça veut dire quoi?
Alors, merci. Encore une fois, décidément, vous oubliez rien. Alors ça, c'est pour moi, c'est très important, c'est essentiel. Comment transmettre l'histoire? Eh bien, il y a les livres, il y a les documentaires, etc. Mais on sait très bien qu'il y a beaucoup de gens qui ne lisent pas. On sait très bien que tout le monde ne peut pas accéder de manière juste. Eh bien donc, on arrive avec les rues, la rue du boulevard du 17 octobre, boulevard du 17 octobre 1961, la rue... Abdelmalek Sayad, l'avenue de l'autre 8 mai 1945, c'est ce qu'on est en train de faire, ou des places, il y a déjà des choses qui se font, par exemple à Rennes, dont un certain nombre de lieux, à Marseille, on a réussi ici ou là.
Donc, boulevard du 17 octobre 61, le groupe scolaire Abdelmalek Sayad, oui. La rue Abdelmalek Sayad, la rue de l'autre 8 mai 45.
Voilà, c'est important de dire que lorsque l'on combat, des fois, il y a des victoires. Et il faut transmettre nos victoires qui sont le produit de nos combats. de notre détermination, parce que sinon ça désespère la jeunesse. Vous savez pourquoi les jeunes se désespèrent? Parce qu'ils se disent, bah eux là, ça fait 30 ans, 40 ans qu'ils sont sur le pont, ils ont rien réussi à rien faire du tout.
Alors, non. Dans cet espace public, est-ce que vous êtes partisan de tout ce courant qui disent, bon, il faut enlever telle ou telle statue, par exemple Bugeaud, la Mauricière, Napoléon, je sais pas quoi. Est-ce que vous êtes partisan de ça, ou vous êtes partisan de dire, bon, bah, ça existe, mais il faut faire d'autres trucs à côté?
Alors, là-dessus, c'est un vrai débat. C'est un vrai débat qui, pour moi, n'est pas tranché. Moi, ce que je crois, c'est que, il faut à minima mettre des plaques en disant, voilà, le général Bugeaud, c'est un criminel, c'est lui qui a fait les enfumades en Algérie, à Mostaganem, il a assassiné des milliers de gens dans une grotte en Algérie.
C'est la Mauricière.
Mais c'est tout ça, c'est l'engagement de ce général Bugeaud. Et donc, il doit pas y avoir d'école du général Bugeaud, c'est pour ça qu'on s'est battu. Donc, il y a des grands criminels comme ça, c'est insupportable, c'est une insulte pour nous, nous, les Français héritiers de l'immigration algérienne coloniale, de voir que des mecs comme ça qui ont spolié notre peuple, nos arrière-grands-parents, qui ont fait des catastrophes, eh bien ils puissent avoir droit de cité encore et qu'on les glorifie.
Et donc finalement pour vous, vous savez qu'il y a eu le rapport de Benjamin Stora, l'historien, pour Emmanuel Macron. Finalement, ça tombe bien à propos, puisque je crois qu'il y a 300 personnes, je crois, d'immigration qui vont avoir des rues, leur nom, etc. Et puis, il y a la reconnaissance du crime de Maurice Audin, d'Ahmed Boumendjel. Emmanuel Macron est parti se recueillir sur le pont de Beson le 17 octobre 2021. Et les archives sont ouvertes aujourd'hui. Il a levé le secret en dehors du pénal. Donc, il a ouvert les archives. Tout ça, ça va dans le bon sens?
Alors, ça va dans le bon sens, mais c'est pas tombé du ciel. C'est le fruit de notre travail depuis 40 ans. C'est un travail important que nous avons engagé, et ça prouve que lorsqu'on mène des combats politiques, des combats citoyens, sur le terrain, à partir des quartiers populaires, etc., les petites idées, les petits ruisseaux font les grandes rivières, et donc ça a des incidences, effectivement. Pour revenir au pont de Beson et de la symbolique du président de la République au pont de Beson, moi j'ai salué cette initiative, parce que c'est la première fois qu'un président de la République va se recueillir auprès des victimes. Mais je dis, c'est un demi-pas. Il aurait dû dire que, au-delà de Maurice Papon, il y avait Roger Frey, il y avait le Premier ministre Michel Debré. C'est une responsabilité politique, et dans ce cadre-là, c'est un crime d'État, et pas seulement une bavure d'un sinistre préfet. C'est ça qui est important. Donc Monsieur Macron a fait un demi-pas en 2021. J'espère, s'il est élu demain, je m'adresse directement à lui en disant il faudra reconnaître les crimes coloniaux, et notamment celui du 17 octobre 1961, parce qu'il est à Paris. Et tous ces crimes coloniaux, il faut dire une chose importante que je répète souvent. C'est l'histoire de France. C'est une partie de l'histoire de France dont les Français ont été amputés de leur propre histoire. Donc ce n'est pas seulement l'histoire des Algériens.
Une partie de l'histoire de France,
voilà,
c'est l'histoire d'Algérie. Et une partie de l'histoire d'Algérie, c'est l'histoire de France. Et justement, cette Algérie, on va terminer un peu là-dessus. Est-ce que vous allez en Algérie? Est-ce que vous avez des relais en Algérie? Est-ce qu'on vous ouvre des archives aussi en Algérie? Est-ce qu'il y a des lieux de mémoire? Comment ça se passe avec l'Algérie, puisque vous êtes aux premières loges pour faire vivre la mémoire de tout ce qui s'est passé en France. Mais l'Algérie, elle se situe comment un petit peu dans votre travail?
Merci infiniment pour cette question, Nasser, qui est une question centrale, importante. Eh bien, il y a une panne de ce côté-là. Il y a une vraie panne. Les Français héritiers de l'immigration coloniale, leur travail, Français héritiers de l'immigration algérienne, ne sont pas souvent pris au sérieux. Vous savez que la pièce de théâtre, il y a 10 ans, j'avais monté une pièce de théâtre sur le 17 octobre 61, eh bien, il a fallu que je passe dans une radio pour que une animatrice dise « Mais au fait, vous avez été, monsieur Kaki, invité au Centre culturel algérien ?» Je lui dis « Bah non ». Donc, si vous voulez, là, dans 17 octobre 1961, je me souviens l'année dernière, on ne nous a pas invités. Pourtant, c'est un lieu du peuple. Donc, oui, j'aimerais bien faire un travail en Algérie, autour des archives là-bas, mais aussi jouer une pièce de théâtre en Algérie sur cette affaire-là, parce que ça concerne aussi, évidemment, les Algériens en Algérie, autant que les Français héritiers de l'immigration algérienne.
Donc, l'appel est lancé. En tout cas, si vous aviez simplement un mot à dire aux jeunes générations qui sont binationaux français, vous leur diriez quoi ?
Ben, je leur dirais que la connaissance historique est centrale, que un arbre ne peut pas vivre sans ses racines, et que le savoir est une arme de pouvoir. La culture est essentielle. Lisez, écrivez, battez-vous, restez debout, parce que nous avons un héritage, singulièrement les Algériens, un héritage de mémoire, de combat. Il faut jamais l'oublier. Les Algériens n'ont jamais baissé la tête. Et moi, cette dignité que mes parents m'ont donnée, dans le cadre même d'une difficulté de vie. Les difficultés de vie dans les années 60-70, c'était des... Et donc, pourtant, malgré tout, la dignité et relever la tête et se battre, être déterminé, c'est essentiel.
Mohamed Kaki était notre grand témoin aujourd'hui. Une fougue et une passion sans commune mesure. À très bientôt, Mohamed.
Merci, Nasser.
Retrouvez les grands témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.